Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Il vient de sortir la suite de son premier roman. Cette personne, c'est bien sûr l'auteur Jean-Yves Duval. Pour en parler, nous le recevons. Alors Jean-Yves Duval, bonjour.
Bonjour Joséphine.
Dans un premier temps déjà, présentez-vous, parlez-nous un petit peu de votre parcours artistique.
Artistique est beaucoup dire d'abord. Mais écoutez, vos auditeurs commencent à me connaître un peu, puisque vous me faites la gentillesse à chaque fois que je sors un nouveau livre de m'accueillir, de m'interviewer. Donc je ne voudrais pas en paraître redondant, je dirais simplement que j'ai une activité de journaliste depuis toujours, de radio, d'écrit, voire même de télévision. Et actuellement, je dirige plusieurs sites d'actualité, mais plutôt tournés vers l'international, vers l'Afrique en particulier. Je fais également une émission de radio chaque semaine, mais sur une radio de la diaspora sénégalaise dans le monde entier, qui est une émission de géopolitique qui s'appelle Cartes sur table. Et la compilation de toutes ces émissions au cours de l'année nous permet de sortir un ouvrage avec l'ami avec lequel, ou l'interlocuteur, l'invité que je reçois chaque samedi, qui s'appelle Ibrahim Atiam, qui est sénégalais, qui est un leader d'opposition au Sénégal et qui est en même temps le conseiller spécial de l'ancien Premier ministre Abdoul Baye, qui lui-même est candidat au présidentiel de février 2024, donc dans quelques mois, dans trois mois à peu près. Donc voilà un peu pour mon activité, mais bien entendu, mon activité majeure, si j'ose dire, et presque préférée, parce que là j'ai véritablement faible pour l'écriture, c'est la rédaction de romans. Et là je viens effectivement, comme vous avez la gentillesse de le rappeler, de sortir une deuxième fiction africaine de la série du consul honoraire Étienne Darcy.
On va revenir à l'écriture, comment vous êtes mis à l'art de l'écriture ?
En fait, tout remonte à une vingtaine d'années, donc vous voyez, ça ne me rajeunit pas du tout. Lorsque j'ai eu une proposition par un noble, un aristocrate sartois, qui s'appelle le marquis de Maguinel, de rédiger une biographie sur un de ses ancêtres, qui avait été maréchal de France au XVIIIe siècle, sous Louis XV et sous Louis XVI. Il a d'ailleurs servi les deux rois, il a été guillotiné, malheureusement pour lui, sous le milieu de la Terreur, sous la Révolution, donc en 1789, et il avait 86 ans, comme quoi on l'avait guillotiné alors qu'il était quand même un personnage très âgé. Et donc j'ai commencé par là, et ça a été un travail qui a été pour moi un peu laborieux mais passionnant parce qu'il a duré quand même 5 ans à peu près, à la fois de recherche à travers tous les manuscrits qu'il m'avait lui-même remis, le marquis de Mailly, qui était vivant à l'époque et que sa famille possédait, donc il possédait des centaines de mémoires écrits entre son aïeul, donc le comte Joseph Augustin de Maguinel, personnage important de la cour, ministre divers et variés. Et donc j'avais donc ces documents sous la main. J'ai dû aussi lire un certain nombre d'autres ouvrages parce que la période du XVIIIe siècle était loin pour moi, ça remontait à l'époque du lycée. Donc si vous voulez, ça a été un travail de recherche assez minutieux pendant à peu près 5 ans, y compris la rédaction de cette biographie de ce maréchal de France. Tout a commencé par là. Et ensuite, si vous voulez, bien, j'ai voulu tenter... ayant fait un travail un peu de scribe, d'écrivain, mais qui était à la bibliothèque, j'ai voulu voir si j'avais l'imagination qui pouvait me permettre de produire cette fois un roman, c'est-à-dire vraiment le produit, non pas de recherche, mais même si quand même bien souvent les romans demandent à être documentés, mais surtout une œuvre de fiction qui sortit tout droit de mon imaginaire. Et là, j'ai sorti un premier roman qui s'est appelé « Saut et le complot du président », et je dirais que pour un premier essai, ça a été un coup entre guillemets, tout très modestement, de maître, puisque le livre a été reconnu lors du Salon du Livre et du Vin de Saumur comme étant un livre potentiel reconnu par le jury qui pouvait être porté sur les écrans. Donc ça m'a véritablement mis le pied à l'étrier et encouragé à poursuivre. Et à partir de là, ben, effectivement, bon an, mal an, si vous voulez, plutôt tous les ans et demi à peu près, eh bien, j'ai produit, j'ai sorti, j'ai publié un nouveau roman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Otages Bleus, c'est le 11e roman, mais à côté de ça, j'ai quelques essais politiques ou quelques autres ouvrages. Donc vous voyez, voilà, c'est véritablement comme ça que je suis venu à produire les différents ouvrages dont je vous parle actuellement.
Alors sinon, vous avez sorti la suite du premier livre, Amadou, l'enfant soldat du Sahel. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler l'histoire du premier livre ?
Alors Amadou, l'enfant soldat du Sahel, l'idée m'était venue parce que j'ai fait de nombreux reportages en Afrique. plusieurs reprises, là où je suis passé, j'ai entendu parler de ces enfants soldats, de ces mômes de 8, 10, 12 ans à qui on met une machette ou une kalachnikov entre les mains et qui vont tuer, même y compris des membres de leur famille si on leur commande de le faire. Donc c'est des histoires assez terrifiantes, assez terribles, et ces histoires d'enfants soldats m'ont poursuivi pendant très longtemps. Et ce qui fait que là, j'ai eu l'idée de véritablement les mettre entre guillemets en scène, c'est-à-dire tout simplement à travers un roman, raconter un peu le parcours, les dérives même, puisque l'enfant soldat dont je raconte l'histoire va devenir un chef terroriste important au Sahel. Et donc, c'était surtout ça que je voulais écrire dans ce roman, Amadou, l'enfant soldat du Sahel. Parallèlement, j'y ai ajouté, si vous voulez, c'est greffé tout au moins sur ce récit, deux autres aspects qui me tenaient un peu à cœur. Parce que comme je connais bien la situation au Mali, j'avais découvert qu'il y avait un fait divers tragique très important qui se déroulait tous ces mois-ci. C'était le trafic d'organes pour des albinos. Autrement dit, ces Africains blancs dont on vend des organes parce qu'on considère qu'ils ont des pouvoirs tout à fait supra-normaux. Et donc, on n'hésite pas pour cela à les tuer, à les démembrer et à vendre certains de leurs morceaux à des prix d'ailleurs qui sont très, très élevés. Alors donc, il y a eu cette histoire sordide qui a trouvé d'ailleurs son épilogue au Mali il y a très peu de temps. On a enfin démantelé les auteurs de ce juteux trafic, si j'ose dire. Et puis, le troisième aspect de ce roman, c'était justement cette rencontre aussi avec un Malien qui est le directeur général de la police nationale, que j'ai eu l'occasion de rencontrer moi-même parce que, ayant porté ensemble l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice en France il y a une dizaine d'années. Donc, il est devenu lui-même aussi, à son corps défendant, si j'ose dire, un peu un des personnages de ce roman d'Amadou, l'enfant soldat du Sahel, et dans lequel on trouve aussi d'ailleurs le parcours de migrants partis du Burkina Faso qui vont tenter de rejoindre l'Europe, qui est présenté comme l'Eldorado, là où on va, soi-disant, on est tout au moins, où ils espèrent résoudre tous leurs problèmes et trouver enfin, à la fois peut-être un emploi, un toit, etc., chose qu'ils ne trouvent plus dans certains pays du Sahel.
Et pourquoi avoir fait une suite ?
Alors là, c'est assez curieux, parce que je ne l'avais pas expliqué dans le premier, Amadou, l'enfant soldat du Sahel, mais j'ai trouvé qu'il était quand même plus juste de dire qu'il y a 3 ans environ, j'ai été approché par justement un très haut fonctionnaire malien pour postuler pour devenir donc consul honoraire du Mali en Pays de la Loire. Bon, sur le moment, je vous avoue que j'ai été très réticent parce que j'avais d'abord mes propres activités qui, comme vous le voyez, sont déjà assez prenantes. Et puis, j'ai fini par me laisser persuader parce qu'il a pensé que je pouvais apporter peut-être de l'aide à des ressortissants maliens en difficulté, à la fois dans la Sarthe, dans la Mayenne, en Loire-Atlantique, nos fameux départements des Pays de Loire. Donc j'ai fini par dire oui, et j'ai déposé mon dossier, et ce dossier était sur le point d'être validé par le ministre des Affaires étrangères du Mali, quand, justement, il y a 3 ans, la situation était terriblement dégradée entre nos deux pays, sur le plan à la fois politique et sur le plan diplomatique. On a rappelé notre ambassadeur de France à Bamako, à Paris, la force Barkhane, vous en souvenez, a été retirée du Mali, et tout d'un coup, nous avons été jugés comme des personnes non grata, finalement, dans ce pays. Et évidemment, ça a bloqué le fameux dossier pour devenir consul honoraire. Bon, c'est ainsi. Et c'est cet acte manqué, en quelque sorte, qui m'a donné l'idée d'écrire une série sur les aventures d'un consul honoraire du Mali, de Pays de la Loire, que je fais vivre donc depuis maintenant 2 ans plus de fiction africaine.
Et justement, de quoi parle ce second livre ?
Alors, dans le premier, il y avait ce voyage un peu initiatique d'un migrant parti du Burkina Faso et qui remonte vers l'Europe avec tous les périls qu'on peut trouver et imaginer sur le chemin, que ce soit en traversant différents pays, mais aussi la Méditerranée, et où d'ailleurs on sait qu'il y a de nombreuses victimes qui périssent en mer. Et puis il y avait cette histoire, je vous l'ai dit, assez tragique de ce trafic d'organes des albinos, et enfin cette affaire des enfants soldats. Là, dans le second, j'ai voulu, si vous voulez, raconter un peu l'histoire de ces otages occidentaux, en particulier français, qui sont détenus au Sahel. Et on en a eu plusieurs, beaucoup même, si j'ose dire. Alors moi, je me suis inspiré plutôt très librement, si vous voulez, de 2 otages français, dont vous vous souvenez peut-être, mais il y avait Olivier Dubois, qui est un journaliste, et puis Sophie Petronin, qui était une franco-suisse, qui travaillait pour une ONG européenne, donc au Mali, et s'occupait des enfants maliens. Ils ont été tous les deux pris en otage, et ils ont vécu durant des mois et des mois, plusieurs années pour Sophie Petronin. Donc c'est cette idée-là qui m'a donné l'inspiration pour montrer un peu l'enfer que vivent les otages qui sont détenus pendant ainsi durablement, en plein désert, dans le Sahel, par des djihadistes ou par des groupes rebelles, qui sont des groupes rebelles touaregs, indépendantistes, que l'on trouve notamment au nord du Mali. Donc l'idée était de raconter cette histoire, et donc de faire intervenir mon personnage principal qui est devenu un peu le héros de la série, qui est Étienne Darcy, consul honoraire donc du Mali en Pays de la Loire. Et il va être chargé par le président de la République d'accomplir une mission que l'on pourrait qualifier de mission impossible. Alors Alexis va la réussir. Et pour pimenter un peu le récit, j'ai fait rentrer en scène une espionne russe. Parce que vous savez que les Russes sont très présents aujourd'hui à travers Wagner notamment au Mali. Et donc il va y avoir cette apparition d'une espionne de Vladimir Poutine qui va elle-même peut-être perturber un peu tout cela. Donc c'est ce qui va donner, j'espère, le sel à ce roman d'aventure.
Et pourquoi avoir choisi comme titre Otage des hommes bleus ?
Les deux personnages qui sont mes deux personnages phares parmi les otages, et qui ne sont pas évidemment Sophie Petronin et Olivier Dubois, mais des personnages de fiction que j'ai romancé moi-même, eh bien vont être détenus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, par des hommes bleus, c'est-à-dire les Touaregs. Les Touaregs, on les appelle les hommes bleus dans le désert, parce qu'ils portent un chèche bleu la plupart du temps. S'il est noir, ils ont de toute façon une djellaba bleue, et donc on les appelle les hommes bleus dans le désert. Et d'ailleurs, la couverture de mon livre, on le voit très très bien, il y a ce Touareg avec sa tunique bleue et puis son chèche noir qui traîne derrière lui un dromadaire et à travers les dunes du Sahel. Donc voilà, le titre est devenu ainsi, puisque ces deux individus, donc un homme et une femme, vont être retenus otages pendant plusieurs mois et on vivra ainsi un peu leur péripétie et peut-être même, oui, s'ils doivent être libérés évidemment, mais ça c'est une autre histoire et c'est dans le roman qui va le raconter bien évidemment.
Et concrètement, dans quel genre littéraire on qualifie ce livre ?
Oh, nous ne sommes pas avec Alexandre Dumas ou avec Balzac. Il s'agit là tout modestement d'une fiction, d'un roman d'aventure. Donc il y a une intrigue, évidemment, où on essaie, comme tout bon romancier, d'y mêler du suspense. On a des ingrédients, si vous voulez, quand on est romancier pour ce genre de livre, qu'on qualifie aussi un peu de thriller. C'est qu'il y ait de l'action, un petit peu de sexe, mais soft, parce que c'est pas mon genre de faire dans du sexe hard. Donc c'est plutôt une liaison qui peut se créer au cours des pages entre un mais une femme, mais de façon très, encore une fois, très soft. Donc l'idée est là, c'est intrigue, suspense et action, et puis on laisse ainsi se dérouler notre imagination au fil de l'histoire, au fil des pages.
Et justement, comment vous l'avez écrit, ce livre ? Combien de temps vous avez passé dessus ? Comment ça s'est passé pour l'inspiration ?
Alors, ce genre de livre demande à peu près, pour moi, si vous voulez, un an de travail, tout compris, si j'ose dire. C'est-à-dire, à la fois la réflexion, il faut déjà avoir l'idée, il faut commencer à constituer une trame, avoir un petit peu un synopsis, un scénario, en quelque sorte, savoir d'où on part et où on va, et comment on va y aller, évidemment, quels sont les personnages qui vont intervenir. Il faut leur trouver une identité fictive, évidemment. Donc ça demande un peu de temps, déjà, de réflexion. Ensuite, on commence à écrire, mais on fait des recherches. Moi, j'ai eu la chance, notamment, d'aller au Mali, j'ai même interviewé à l'époque le président de la République qui s'appelait Olfa Conaré. Et donc, on réunit aussi nos souvenirs quand on a eu la chance, comme je les ai eus, moi-même, de pouvoir arpenter ces régions-là. Je suis allé au Sénégal, je suis allé en Somalie, je suis allé en Burkina Faso, enfin, dans différentes régions d'Afrique de l'Ouest, qui m'a permis de dresser un petit peu le théâtre, le lieu sur lequel, la scène sur lesquelles vont évoluer les différents personnages. Et j'ajoute aussi, dans l'histoire dont je vous parlais, à travers la vie de ces otages, j'ai voulu aussi montrer, à travers Otages des hommes bleus, tout le travail qui est fait de déstabilisation de la France en Afrique de l'Ouest, par ce qu'on appelle les usines à troll russes. On avait peut-être entendu parler, ce sont des hackers, en quelque sorte, qui viennent ainsi brouiller les ondes et désinformer de manière à rendre la présence française inhospitalière dans la plupart de ces pays. Et on a vu que ça marchait, puisque nous avons été, entre guillemets, si j'ose dire, éjectés du Mali, du Niger un peu plus tard, et on peut toujours redouter de l'être encore dans d'autres pays à l'avenir. Donc c'est ce qu'on appelle des usines à troll. C'est composé de jeunes hackers, ce sont des cybercriminels, des cyber-africanistes, qui vont ainsi diffuser sur la toile et répandre de fausses nouvelles. Donc j'ai voulu aussi montrer cet aspect des choses à travers donc ces cyber-activistes qui vont chercher à déstabiliser la présence française donc au Sahel. Alors vous voyez, tout ça, ça nécessite quand même beaucoup de recherches, d'informations, et puis après le temps de l'écriture, donc ce qui au total va à peu près produire un an de travail.
Et justement, pourquoi acheter ce livre ?
Oh, vous savez, aujourd'hui, on a le choix entre toutes les catégories d'ouvrages. Il y en a qui préfèrent les ouvrages romantiques, voilà, les ouvrages qui ont du suspense, qui ont de l'action. Donc chaque lecteur a bien souvent une affection particulière pour un style. Moi, le mien est plutôt des romans d'action. Romans où se mêlent un peu entre intrigues policières ou espionnage, et puis évidemment des personnages qui sont des personnages que je traite toutes pièces, mais auxquels je suis d'ailleurs très attaché. Je ne sais pas si je crois vous l'avoir déjà dit, mais c'est vrai que lorsqu'on est un romancier, on crée des personnages comme on crée un golem, c'est-à-dire cette statue d'argile, on le façonne à notre façon. Et aussi bien que ce soit Étienne Darcy, qui est à la fois donc diplomate, il est consul honoraire du Mali, il est un ancien procureur antiterroriste au parquet de Paris, et en même temps il habite dans le sud de la Sarthe, il a une petite propriété et il a quelques hectares de vignes. Donc oui, il faut déjà créer aussi toute une histoire autour de nos personnages, de manière à les rendre crédibles, à les rendre humains. Et moi, il m'est très, très cher. Pour moi, c'est pratiquement devenu un ami. Mais comme tous mes personnages de romans précédents, parce qu'on passe beaucoup de temps avec ces personnages. Et puis, comme je viens de vous le dire, on les crée de A à Z, on les façonne. On a un peu le père et la mère à la fois réunis de ces personnages. Donc ce qui fait qu'on y tient. Alors de temps en temps, certains d'entre eux, pour les besoins de la cause, vont mourir ou doivent mourir dans l'histoire, et c'est pas toujours très facile pour nous, évidemment, d'en arriver là, parce que c'est compliqué de faire disparaître ces héros, ces personnages. Donc voilà un petit peu comment se fabrique aussi un petit peu ce style de roman, avec des personnages, dont notamment aujourd'hui celui d'Étienne Darcy, dont c'est la deuxième aventure, et pour laquelle je réfléchis déjà, évidemment, à le faire entrer en scène l'année prochaine pour une troisième fiction qui, évidemment, sera à nouveau une fiction qui se déroulera en Afrique, bien évidemment.
Où peut-on l'acquérir, ce livre ?
Alors, normalement, dans les bonnes librairies, il suffit de le commander. S'ils ne l'ont pas, ils l'auront très rapidement. On le trouve également à la FNAC, on le trouve sur Amazon, bien sûr, sur Amazon. Et puis, j'aurai le plaisir de le dédicacer ici au Mans et dans le Nord-Sarthe, en particulier à Mamers. Ça sera le 16 décembre. Je le dédicacerai à la librairie Maison de la Presse de M. et Mme Delisle, qui sont des gens charmants et qui m'accueillent toujours avec beaucoup de plaisir, et à qui je rends visite toujours moi-même avec beaucoup de plaisir. Ça sera de 10h à 17h. Au Mans, je serai à la librairie Thouars le 30 décembre. Là, ça sera de 16h à 19h, et peut-être prochainement aussi à Fresnes-sur-Sarthe. Donc, à partir de l'année prochaine, et même de la fin de l'année, et dans le cours de l'année prochaine, je ferai comme ça un certain nombre de dédicaces, de signatures, où ça nous permet de rencontrer d'ailleurs nos lecteurs, de discuter avec eux, d'apprendre beaucoup de choses à leur contact et de leur communiquer aussi un certain nombre de choses qu'ils souhaitent entendre de notre part, bien évidemment.
Est-ce que vous avez des contacts à nous communiquer pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous, vos livres et notamment cet otage des hommes bleus ?
Non, en dehors de ce qu'on vient de dire, de le trouver dans les librairies et puis à travers des dédicaces comme ça va se présenter. Je voudrais juste peut-être ajouter un mot, c'est qu'au même moment pratiquement où va sortir en librairie ce roman, cette fiction « Otage des hommes bleus », je prépare la sortie également avec Ibrahim Atiam, qui est donc la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sénégalais, de notre troisième édition, ça sera l'édition 2024, de notre ouvrage de géopolitique qui s'appelle « Le monde vu de Materanga » et qui est donc la rétrospective de toute l'année de nos éditions que nous faisons sur Diaspora Vision, où là nous abordons toutes les questions internationales. Nous essayons de décrypter pour les auditeurs, parce que c'est des dossiers souvent compliqués, difficiles. On a cette année, évidemment, notamment la guerre en Ukraine. Il y a des élections qui ont lieu un peu partout dans le monde. On a plus récemment, malheureusement, la guerre qui se passe à Gaza entre Israël et le mouvement terroriste Hamas. Donc ce sont des sujets qu'on évoque chaque semaine et qui sont compilés ainsi dans cet ouvrage qui va s'appeler « Le monde vu de Materanga » et qui va sortir en tout début d'année prochaine, là, au mois de janvier.
Peut-être quand même un site internet à nous communiquer ?
J'ai pas de site particulier, si ce n'est qu'on peut aller sur mon site, où j'entretiens d'ailleurs aussi un billet hebdomadaire. C'est www, bien évidemment, jeanyvesduval.com. Et là, on y retrouvera évidemment l'essentiel de ma production de romans. Et puis, encore une fois, donc, cette chronique hebdomadaire que j'alimente sur la base de faits que j'observe comme tout un chacun et qui me permettent d'avoir une réflexion sur des événements plus ou moins importants, plus ou moins dramatiques, plus ou moins drôles. Voilà. C'est le cadre de cette chronique qu'on peut retrouver sur mon site. Donc, jeanyvesduval.com.
Un mot pour la fin ?
La fin, ça sera tout simplement pour vous remercier. Vous remercier d'avoir toujours la gentillesse, la délicatesse de m'inviter à votre micro et de pouvoir ainsi présenter nos ouvrages. Car, encore une fois, j'ai coutume de dire que nous n'existons que parce qu'il y a des lecteurs. Si nous n'avons pas de lecteurs, nous n'existons pas. Nous n'existons aussi que parce qu'il y a des libraires. Sans libraires, nous n'existons pas. On me dirait, les libraires n'existent que parce qu'il y a des auteurs aussi. Donc, en quelque sorte, vous voyez, notre sort est lié intimement. Et puis, nous existons parce qu'il y a des relais médiatiques comme le vôtre qui s'efforcent, et c'est tout à votre honneur, de faire connaître à vos auditeurs le produit de tel ou tel écrivain, régional en particulier, bien évidemment. Et c'est normal, puisque vous privilégiez plutôt notre région de la Sarthe. Et encore une fois, là, je vous en remercie. Et je vous en suis reconnaissant parce que, encore une fois, vous voyez, on a besoin des lecteurs, des libraires et puis de vous-même. Et nous, nous sommes non pas des artistes, plutôt des artisans de l'écriture qui essayons de faire passer quelques moments de détente à des personnes qui en ont bien besoin à l'heure actuelle. Et dans mon cas, si vous voulez, toujours en m'efforçant à la fois de les instruire et de les distraire. Pour moi, un bon livre, c'est celui qui nous distrait et qui en même temps nous apporte des informations, donc qui nous instruit. Donc voilà ce que j'essaie de faire. Et encore une fois, donc je veux vous remercier de la gentillesse de votre invitation et de venir répondre ici au micro de Radio Alpes-Mancel.
Alors Jean-Yves Duval, je vous remercie. Et en effet, je vous souhaite encore de beaux projets littéraires et je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup Joséphine, à très bientôt. Merci de votre accueil.
Au revoir.
Au revoir.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.